Ah,
deux
d'accord.
PLU, que mon père était fermier, nous étions dans une petite ferme là, et alors automatiquement, comme on faisait le pain toutes les semaines, il fallait la farine toutes les semaines.
Et vous veniez à ce moulin là?
On n'est pas qu'à celui-là, on allait au Verne, surtout c'était pendant la guerre de 14-18, alors il fallait gâter un petit peu tout le monde.
Ah, d'accord.
Les meuniers gâtaient un peu tout le monde, et puis on n'avait pas la farine comme on voulait. Même qu'on avait du blé, on ne faisait pas moudre comme on voulait. Enfin, il fallait chercher déjà des petites combines.
Ouais.
Et alors, on venait ici, mettons, deux, trois fois. On disait, ben maintenant, on ira au moulin des Vernes, on ira à Corancy. On s'arrangeait pour avoir la farine. Et il n'y avait pas que les humains. Il fallait penser aux cochons,
aux bêtes,
principalement les porcs, puisqu'on avait fallait la farine d'orge, la farine de blé noir, enfin, toutes les farines pour les bêtes, pour les cochons surtout. Et on venait dans ces petits moulins à tour de rôle on pouvait pas avoir un moulin attitré.
Oui,
on est obligé de jouer un petit peu sur les moulins pour permettre aux meuniers de rendre service à tout le monde.
D'accord.
Parce qu'il y en avait des gens. Hein.
Dans l'histoire de Lou là, laquelle vous parliez de votre maman.
C'est l'histoire de Lou.
Non, c'est pas au moulin de Mignage.
Non, c'est au moulin des Vernes.
Ah bon.
Oui, là. Là, c'est un moulin que mon père a connu. Lui, étant jeune, il était domestique à Mignage. Il est nommé Vincent. Il m'expliquait tout ça. Et voilà. Alors voilà le déversoir, voyez-vous, tel que ça. Le déversoir, il arrivait là, tel que là. Il arrivait là. Et là-bas, sous la voiture. Et là, il y avait un rebondissement sous le chemin. Et il tombait là. Et puis, un peu plus bas, le port.
D'accord.
Un petit port qui n'était pas tellement important. Mais oui, on mettait les bois de la région, et ces bois-là. Et puis alors, au moment du flot, au mois de novembre, ils descendaient tout ça jusqu'à l'arrêt, là-bas, au pont de Pensière.
D'accord.
Voilà. Oui, voilà. Alors ça, c'était la vanne. C'était la vanne pour quand ils pêchaient.
Ah oui, pour la pêche, oui.
Quand ils pêchaient ou quand ils flottaient. Quand ils flottaient pour avoir de l'eau en abondance.
Ah oui, alors
c'était avec ça qu'ils régularisaient l'étang.
D'accord.
Alors là, ça descendait des fois plein trou. Ben, vous avez un trou comme ça qui sort. Hein.
Oui.
Et avec la pression qu'il y avait là-haut, l'eau sortait. Et il fallait de l'eau quand même pour descendre le bois d'un mètre 14 de long.
Oui.
Sur le ruisseau, il fallait quand même une certaine pression.
Ouais.
Alors ils descendaient, puis après ils rejoignaient Lyon en bas. Ouais.
D'accord.
Au-dessus de Blaisy.
D'accord. Ouais. Et ça daterait de quand, cet étang-là, vous savez pas?
Ah, alors c'est déjà vieux, ça.
Ça doit être vieux.
Ça, c'est déjà vieux, parce que ma mère, moi, était en 1872, elle venait déjà ici, qu'elle était en plein rendement à ce moment-là.
D'accord.
Oh, c'est déjà vieux, oh là là.
D'accord.
Et vous savez comment c'était monté un étang comme ça, la maçonnerie?
Ah, non.
Ah, tiens, j'y pensais l'autre jour. Il faudrait que je dise à M. Berthe Langerot comment un étang était fait. Alors voilà comme c'était fait. Ils cherchaient d'abord des grandes fondations, pour faire sur le bon terrain.
Ouais.
Ils sachent que les maçons savaient qu'il n'y aurait pas eu de fuite. Et alors ils montaient ces murs à sec. Vous voyez, ça, ce sont des murs à sec. Il y avait peut-être un peu de maçonnerie autour de déversoir, là, mais enfin, tout le restant, ce sont des pierres à sec.
D'accord.
Et montées avec des pierres vraiment bien choisies, quand même, des pierres plates, montées par des as, avec une certaine pente, aussi bien dans les temps, moins dans les temps que sur le pied. Vous voyez, il y a beaucoup de pieds sur les
hommes. D'accord, oui, il y a
bon.
Des grands pieds.
Alors, ils montaient sur des pierres sèches de chaque côté. Et dans le milieu de la chaussée, il y a une largeur environ d'un mètre, 90 à un mètre de large, qui est bourrée de terre glaise, la terre glaise.
Pour être étanche.
Vous ne saviez pas ça?
Non.
Ah, c'est une chose très importante dans tous les étangs de la région.
Ah bon?
Tous les étangs étaient faits comme ça, autrement il n'y avait pas de maçonnerie résistée. Vous pouvez mettre du ciment, vous pouvez mettre n'importe quoi. Alors ils piochaient très profond dans la butte de chaque côté, très profond en dessous du niveau de l'étang, et ils mettaient de la terre glaise délayée, et puis bien damée. Et puis alors ils montaient la tranchée de terre glaise avec les murs.
D'accord.
Et puis quand ça arrivait là-haut, ben la terre glaise, elle arrivait à l'horizontale, à la hauteur du niveau de l'étang, avec les murs. Et c'est pourquoi que ça ne fuit pas.
D'accord.
Mais il n'y a pas de ciment.
Ah bon?
Dans les étangs, il n'y a pas de ciment. Il peut y avoir un peu de ciment, comme vous voyez là.
Oui.
Mais le milieu de la chaussée, c'est de la terre glaise.
D'accord.
Oui. Et même de la terre glaise, la terre à four.
Oui.
La terre à four, ce n'est pas directement de la terre glaise.
Mais il la prenait par où, cette terre?
Chez nous, il y en a chez nous.
Ah, il y en a?
Il y en a.
Ah bon?
Ah oui, moi j'en ai pour refaire ma cuisinière. Je connais un coin. Ben, faut chercher les coins, par exemple.
Ah, bon.
Sur la route de Quezon, il y en a.
Tiens.
Vous cherchez ça en carrière, comme
ça. C'est en carrière.
Oui, piochez ça. Vous délayez ça comme du ciment. D'ailleurs, les maisons qui étaient montées dans le temps ici, voilà 150 ans, 200 ans, c'était comme ça.
Oui, d'accord.
Ah, oui. Ah, et bon. Croyez-moi que quand c'était brayé, bien délayé, qu'elle était, que la terre glaise, si, la seule question, il ne fallait pas que ça mouille. Mais le maçon montait des murs normal. Moi, je me rappelle, j'avais un oncle, je lui avais déjà monté une porcherie déjà importante, puis pour mettre une vache ou deux. Eh bien, c'était moi qui délayais la terre glaise, c'était pas difficile à faire le mortier. Il y avait qu'à mettre un temps, puis délayer ça pour qu'elle soit vraiment, comment vous direz, qu'elle soit bonne à maçonner.
D'accord.
Pour que vous puissiez la prendre. Et il maçonnait, la terre glaise faisait le ciment.
Ouais.
Et vous pouvez croire que quand c'était sec, ça ne bougeait pas, moyennant que ça ne mouille pas.
Oui, oui.
Si ça mouillait, là, il n'y avait rien à faire. Ça tombait, ça délaye tout de suite, c'est pas du ciment.
D'accord.
Mais la plupart des maisons, vous avez encore des vieilles maisons maintenant, vous avez encore des vieilles maisons qui ont des bons couverts dessus, qui ont encore de la terre glaise, il ne faut pas vous en étaler. Ah oui, c'est un espèce de torchis.
Oui, oui.
Oui.
D'accord.
Et alors les étangs, je vous dis bien, ça c'est une chose à bien vous mettre dans la tête. Un étang n'est pas fait en ciment, il n'y a pas de ciment, il n'y a rien. C'était la question de tomber assez profondément dans la montagne,
ouais,
de chaque côté,
ouais,
pour pouvoir bien incruster cette terre glaise, que ça fasse vraiment, vraiment, comment dirais-je, étanche,
ouais,
et en profondeur, en dessous du niveau de l'étang. Et puis après, ben, il monte avec l'étang. Et vous dites, il y en a pas large, à peu près un mètre au plus.
D'accord.
Ah,
ben ça, je sais pas.
Oui. Ah oui, puis c'était délayé. Ah. Il y en a des choses
que vous savez. C'est vrai, vous allez nous apprendre.
Oui. On vient au moulin de Miage.
Oui, c'est là. Oui,
c'est le moulin qu'on a connu et que j'ai connu très jeune. Et chacun a porté son blé. Alors on en a porté deux sacs. Alors je vais vous expliquer une chose que certainement vous n'allez peut-être pas croire, mais elle est véridique. Et alors chacun venait avec deux vaches. Il y avait des anneaux par là, il y avait des anneaux. Oui. Alors deux vaches. À des fois on arrivait, il y avait 4-6 vaches. Deux, trois bourricots qui étaient attachés par là, puis tout le monde était dans le moulin, tout le monde attendait son... Oui, vous l'amenez, puis il retournait, et puis il revenait chercher. Mais moi, je vais vous expliquer quelque chose. En 1917, vous avez eu peut-être entendu dire, peut-être de l'hiver 17-18, où ces pauvres gens qui se battaient là-bas sur le front,
oui,
les pauvres soldats avaient les oreilles, les pieds gelés, tout ça, le bout du nez gelé. Le thermomètre enregistrait 26 à 27 ans sous zéro, en 17. Oui, ici dans la région. Oui, 26 à 27 degrés. Oui, 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 oui. Mais je n'en passe vraiment. En 17, hein. Tous les rivières, les ruisseaux, tout ça a été pour toi. Eh bien, je venais, moi j'étais pourtant pas vieux, hein. J'avais 13 ans. J'avais 13 ans. Je venais avec un ministre, comme on appelait ça, on l'appelait le ministre. Avec deux, on ne pouvait pas rouler avec les voitures, il y avait de la neige, et il faisait trop froid, le bourricot glissait, il fallait venir par les moyens de fortune. On mettait deux, trois sacs coupés en deux, vous voyez, un sac de blé, de trois doubles décalites, coupés en deux, puis on mettait ça à cheval sur le dos du ministre. Et je partais de là-bas du fond du lac de Pansière, avec cette pauvre petite bête, qui n'était ni fer à glace, ni rien du tout, qui glissait, vous savez, comme une patinoire, comme des vrais skis. Hein. Et ben oui, c'était malheureux, mais c'était comme ça. Il fallait qu'on mange. Et je venais ici, de Pélu, là-bas du fond du lac de Pansière, qui a au moins... je vous dis, moi, je dirais pas, il y a au moins 4 km 500 au moins, peut-être plus. Je venais faire moudre le blé, la farine, la fournée, comme on appelait ça, ici, ici au moulin de Miage. J'attendais que ma fournée soit moulue après mon tour, quand mon tour était libre.
Quand, il y avait beaucoup de monde qui
attendait, là, avec toi. Ben oui, puis des fois, on était gâtés, ça dépend des connaissances, ouais, des familles. Ouais. Le gars qui faisait moudre à l'époque, c'était un nommé Choufleur. Choufleur. Jean Renault, on l'appelait, mais son sobriquet était Choufleur. Et alors, je venais avec mon ministre, il faisait le moudre la farine, pour passer la semaine, bien entendu, la bonne farine pour nous, pour faire notre pain. Et en même temps, je remportais un sac de farine pour les cochons. Et puis la semaine après...
Ah ben
après.
Ah, oui,
après, mais tout ça, ce sont des moulins qui ont été faits, qui étaient valables pour la région, n'oubliez pas. Moulin de Mignage, moulin des Vernes, moulin, tous les moulins de la région, tout ça avait son activité en farine, et de la farine, hein, n'oubliez pas. C'était pas de la farine de blé noir. Hein. C'était de la farine butelée à trois parties. Il y avait la fine fleur, la farine bonne, très bonne, la un peu moins bonne, et puis alors la grosse farine. Puis après, vous aviez le système pour faire moudre le machin des cochons. L'orge, le sarrasin, le seigle, tout ça, c'était la farine à cochon. Et en plus le son. Le son de du blé.
C'est pour ça qu'il y a deux meules.
Et voilà, c'est pourquoi il y a deux meules. Il y avait une meule à cochon et une meule pour, parce qu'il ne pouvait pas mélanger le seigle, le blé noir avec la farine blanche.
Et les deux meules sont branchées sur la même roue.
Mais attendez un petit peu.
Ben, on ne veut pas vous déranger.
Petite seconde. Non, non, non. Et alors, le meunier, pour se faire payer, il ne se faisait pas payer. Le meunier lui-même. Parce que les gens n'avaient pas de sous. On n'avait pas de sous, nous, ici.
Alors,
on vivait un petit peu comme les Indiens. On vivait comme de l'air du temps, pour ainsi dire, de ce qu'on faisait pousser.
Sur le
copain. Voilà. Alors on appelait ça la mouture. La mouture, c'était là où le meunier se payait. Alors vous apportiez, mettons, 50 kilos de blé, supposition. Mm-hmm. Ben, je ne peux pas vous dire exactement, je ne m'en souviens plus. Sur les 50 kilos, vous en prenez 4 kilos. Mm-hmm. Et c'est pourquoi qu'il y avait encore à ce moment-là des gens consciencieux et pas consciencieux. Ouais. Il y avait des meuniers qui prenaient 4 kilos, supposition, s'ils devaient prendre 4 kilos. Et celui qui en prenait 5, ben, c'était un gars qui volait les gens. Et n'oubliez pas que quand les sacs partent dessus les greniers, ils étaient pesés au crochet.
Balance, je vais vous la montrer, la
au crochet, c'est un crochet, une romaine.
Ah bon, je vais récupérer la balance.
Au crochet, ça pesait 50 kilos, même plus, même il y en avait. Alors nous, au départ, les sacs étaient pesés, et quand la farine revenait, ben, c'était encore pesé, alors on savait si le meunier vous avait volé ou pas.
Ah, d'accord.
Et comme on avait tous confiance à notre meunier, parce que ici, le Jean Robet, moi j'ai connu, c'était Robet, des...
Oui, c'était bien. Ah, ça a été le dernier meunier.
Maxime, son fils, après.
Ah, ben Maxime, oui, mais lui, alors après, c'est là, à ce moment-là, que vous parlez qu'il faisait la farine des cochons. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi, aussitôt, ils ont fait les farines des cochons. Ces moulins-là n'avaient plus les moyens de... On ne disposait plus des moyens pour satisfaire un petit peu l'évolution des temps. Déjà, ça commençait déjà à prendre ampleur. Alors, le moulin châssis.
Ouais.
Le gros moulin châssis.
Alors, lui, il était déjà monté plus moderne. C'était déjà des cylindres. Il avait la pression d'eau qu'ici n'avait pas. Ils avaient les moyens. Ils avaient un débit de clientèle. Ils avaient tout ça. Alors, ils sont emparés de toute la clientèle. Alors, tout d'un coup, tout ça est descendu à châssis. C'est Chaplin qui s'est emparé de toute la région. Et puis par la suite, eh bien, il y a eu là-bas, comment dans le moulin plus bas, là-bas, un moulin plus bas en descendant,
Vaupranche,
qui s'est emparé de toute l'autre région de l'autre côté. Puis ces petits moulins là-bas, ils sont tombés à rien.
Mais pendant la dernière guerre, ça a tourné, ça peut-être ?
Ah oui, je pense. En cachette.
Ah oui.
En cachette des cheveux.
Ah ben
tout le monde. Tous les petits moulins tournent en cachette. Tous. Ils tournaient la nuit.
Mais le moulin de châssis, il appartenait au château ?
Ah non, non, non,
pas. Ah non, c'était
un homme de Chaplin.
Celui-là, il appartenait à qui, à la base ?
Ah ben, la base...
Uniquement à la famille Robet, ou ça
Ah, moi, j'ai connu le Robet, c'était lui le propriétaire.
Oui,
ah bon ? Ah oui, c'était Jean Robet qui était propriétaire.
Et ce moulin, il a brûlé. On le voit en décapant les poutres, en nettoyant, on a vu qu'il avait brûlé.
Alors, après, quand j'étais parti, j'étais...
Ou avant, peut-être.
Ça m'étonne, j'aurais pas
entendu parler.
Parce que moi, j'avais ma mère qui était de 1872, qui était une grande amie avec Jean Robet.
Oui.
Comme ma mère est au moulin des Vernes de l'autre côté, là, ils fusionnaient ensemble. Il y a un autre moulin qui descend, que le ruisseau descend là-bas.
Oui.
Alors ils fusionnaient ensemble, les deux moulins fusionnaient ensemble. Et ils se connaissaient de très très vieille date. Mais jamais ma mère ne m'a parlé de ça. Et si elle m'en avait parlé, je m'en souviens.
Oui.
Et
alors, avec la révolution,
ça peut être du temps de Napoléon.
C'est possible.
Napoléon, quand Napoléon a été répandu dans les régions.
Oui, ça serait peut-être du temps à ce moment-là.
Oui, parce que Napoléon, j'en aurais des histoires à vous raconter, ma pauvre petite dame. Les danses folkloriques que nous dansons dans cette région, ici, dans le Morvan, eh bien, c'est Napoléon, les soldats de Napoléon qui ont répandu ces danses. Les danses que nous avons ici, et que moi je suis un danseur.
Oui,
oui, sans prétention. Moi, dame, c'est Hubert Langeau, j'ai dansé beaucoup, 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 beaucoup. Oui, j'ai dansé beaucoup, et toutes les danses de la région folklorique. Ça descend de Napoléon.
Oui, les Scottish, les Mazurkas, les Polka qui revenaient de Pologne. Quoi, de...
Je vous en un petit bout, si vous voulez. Je vais vous la chanter en 5-7 pour vous dire que ça descendait des soldats de Napoléon. En voyant la blancheur de tes épaules, coupla, sautons, dansons, ma belle polonaise. C'est bien un air mazurkas, hein.
Ouais, ouais.
Voilà. Et toutes ces danses ont été importées des soldats de Napoléon. Oui. Oui. Et alors, j'expliquais tout à l'heure à mes amis, pour arrêter l'eau d'un étang comme ça, vous ne savez certainement pas comment c'est arrêté l'eau.
Complètement ? C'est la grande salle qu'on
met ? Non, non, mais... C'était plutôt un auberge qu'autre chose, parce qu'ils vendaient des shopping dedans autant que dans un bistrot. Ah oh, bah oui,
tout. Ah oui, et j'ai oui. trouvé une pancarte d'ailleurs.
Vous aviez, vous aviez dit, ces vieux propriétaires par là qui ne savaient pas quoi faire l'hiver des fois.
Ouais.
Ils pensaient leur vache et puis la journée. Alors, chacun, vous voyez, toutes ces petites parcelles de près là. Toutes ces petites parcelles de près. Ben, un gars qui voulait boire une shopping, non pas de monter en haut, c'était trop loin. Oh, il va descendre le meule. Vous ne connaissez pas toi, non?
Non, non.
Ça, il va prendre ma pioche, mais... puis il va descendre sur mon pré vers homme. Oui. Il descendait sur le pré pour tourner un petit peu d'eau, parce que l'eau dans le temps, c'était tout à fait ce qu'il y avait de précieux pour faire pousser le foin.
Oui.
Ah oui, c'était précieux, c'était vraiment. Il y en a même qui plaidaient pour l'eau. Ah mais oui, l'eau sur les prés pour faire baigner les prés, c'était l'engrais, ça, l'eau l'hiver. Ça graissait les couennes. Et ça réussissait très bien. Et maintenant, c'est dans le temps. Et alors, ces bons vieux gars, là, qui a le chapeau, il va descendre, un petit temps, je suis prêt avec ma pioche. Alors, non, pas d'aller, il a peut-être un peu sur le prix, mais aussitôt, ils arrivaient là-bas, j'en ai dérobé. Allons, Jean, venons tirer une chopine, tiens, on va boire une chopine. Et tout l'après-midi, l'hiver, même en n'importe quel temps, il y avait des gens là chez Jean dérobé. Et il y avait des clients avec des chevaux. Pas tant les chevaux, mais les vaches, les bourricots surtout.
Mais à l'époque, le chemin n'était pas comme ça.
Non.
Je suppose qu'il coupait à travers le bois.
Hein. Non, il descendait dans le même endroit. Mais le remblai que vous voyez là, de votre...
Là, alors.
C'était là, vous partiez en trou, là, vous voyez. Ouais. Puis alors, l'eau qui descendait du déversoir, là,
ouais.
Elle arrivait là, dans le chemin, que ouais. les bêtes passaient dedans.
Ouais.
Et elle allait buter dans le bout du chemin là-bas. Et hop, elle retourne à l'équerre dans le trou, là. Et puis le bord du pré, vous voyez, là.
D'accord.
Il y avait des grosses pierres hautes comme ça. Des grosses pierres hautes comme ça, en cas de crue, quand il y avait beaucoup d'eau qui descendait.
Ah oui, parce qu'il y a des fois, ça descend.
Ah, il descendait de l'eau. Alors, on passait sur les pierres, puis les bêtes passaient dans l'eau. Les bêtes passaient dans l'eau jusque-là. Et l'eau sortait du déversoir et allait buter là-bas, puis après elle partait par là.
Excusez, je
suis oui, si on va s'en aller aussi. Moi.
Oui, on va pas. Vous voulez voir l'intérieur?
Ah non, pas du tout.
Ah, vous avez bien gardé le mécanisme.
Là, c'était le moulin.
Non,
on rentrait ici, la grande salle était ici. Le moulin était ici, on rentrait là, il y avait un escalier. Là.
Non. La porte, on l'a bouchée. La porte, vous rentriez là. Celle-là, c'est pas la porte.
Ah, je suis perdu, moi, alors quoi.
Bah oui, parce que là, ça m'étonne qu'il y avait un escalier là.
Oh, c'est là, bien, vous l'avez bien gardé.
Là, il y avait la porte.
Ah, c'est ça.
Il y avait pour le petit côté.
La porte du moulin.
Ah.
Là, il y avait
une porte. Ah, voilà l'escalier.
L'escalier,
ça y est. Ah, oui. Ah. Et la salle est de l'autre côté.
Voilà.
Ah, voilà le moulin, voilà où j'en fais bout de ça, y est.
Ah, oulala,
oui.
D'accord.
Alors là, il manque un truc. Là, il y a des trucs
qu'on a foutu en l'air.
Il manque le rapport, et c'est dans les
dépendances. Non, attends,
mais Gaston...
Berthoud.
Ah, oui, Berthoud.
Oui.
Mais c'est Bourriot, l'ancien...
Mais moi, de mon temps, en 1917...
Ah oui, c'est pas vous
là
qui l'aviez fait faire, la grande...
C'est plus grande que ça.
On était au moins 1m50, 2 mètres de plus.
Enfin, après,
ah oui. Parce que voyez-vous, la chose qu'il fallait dans ces petits moulins, il fallait rechercher toujours des combines. Les gens ne vivaient que de combines. Dans les petits moulins comme ça, où il n'y avait pas tellement une grosse charge d'eau. Oui, il n'y avait pas une grosse charge d'eau. Alors, il fallait chercher des combines pour économiser l'eau. Alors pour économiser l'eau, il fallait des roues à godet. Godet, c'est pas vraiment le nom.
Ah.
C'est le.
Bah si, c'est loin de ça. Parce qu'il y a les deux.
À aube. Oui, à aube. Et alors, avec ces roues à aube qui faisaient 5 mètres de diamètre, quand l'eau arrivait, parce qu'elle était en contrebas le plus possible du niveau de l'étang. Alors l'eau, quand elle arrivait par le haut, toute la charge des godets en descendant, ça faisait le poids pour emmener la roue. Et alors évidemment, ça faisait une économie d'eau. Mmh. Que sur les moulins, où, sur les rivières où il y avait beaucoup d'eau, ce sont les roues à pales.
Oui.
Les roues qui tournent à pales. Alors là, il y avait des bidons, forcément. Et il ne manquait jamais d'eau. Mais sur ces petits moulins-là, c'était calculé d'avoir des grandes, grandes roues pour économiser l'eau dedans. Oh, mais si.
Puis encore celui-là, à cet étang-là, il est alimenté par un ruisseau.
Donc, deux ruisseaux.
Deux petits ruisseaux.
Ruisseaux.
Et le deuxième.
Il y en a un qui vient de sous l'Urodo et l'autre qui vient de
deux
sous
petits
Jalois.
Ruisseaux.
Il y a deux ruisseaux.
Bah, tiens. Oui, oui.
Ah oui, quand vous prenez la petite route en descendant.
Ah oui, non, mais l'arrivée est la même. L'arrivée est la même.
Ah bah oui, mais il y en a deux. Il y en a deux qui alimentent au-dessus du moulin.
Qui se rejoignent, mais oui.
Il y a deux vallées.
Il y a
la vallée de l'Hirodo là au-dessus.
C'est plutôt des sources dans les prés, là.
Oui, et puis les autres sources qui descendent.
Des tas de petites récoltes.
En tout Jalois.
Il y a un gros débit, hein, vous avez qu'à voir la cascade. Hein,
je la connais, monsieur.
Ah non, mais ça, il y a un gros débit.
Hein, oh, je sais. Oui, mais il y avait tellement un beau débit que je disais à ces messieurs dames qu'il flottait le bois, il y avait un port.
Oui, c'est vrai.
Il y a un petit. Là, quand vous montez la côte, là, avant d'arriver au virage, à droite où il y a les broussailles, c'était un port et les gens entreposaient le bois. Ils amenaient le bois avec les vaches. Et puis au mois de novembre, eh bien, il lâchait l'eau de l'étang où il y avait beaucoup d'eau, le ruisseau s'était haute.
Et puis ça emmenait les bois.
Et puis on emmenait le bois jusqu'au barrage de Pontière, pas plus loin.
Oui, oui, parce que nous on a un champ là, enfin on a pas mal de champs autour.
Oui.
On a beaucoup de terrain et il y en a un qui s'appelle le port de.
Ah oui.
De quelque chose comme ça.
Et voilà, c'était le port.
C'est pour ça qu'on l'a appris, parce qu'on a posé la question de savoir comment ça se faisait que ça s'appelait un port.
Oui,
j'ai vu du bois, d'entreposer. Et quand arrivait le moment du feu, parce que les bois à l'époque de mon temps, les bois étaient de la région, descendaient tous à Clamcy. Mmh. Et à Clamcy, tout ça a été trié sur les péniches ou par le train. Et d'un autre côté, comme là, sur nous, à Ourou là-haut, c'était le taco qui descendait là. Sur Lyon et sur Loussière et sur les petits ruisseaux, c'était l'eau. Et alors, au moment de flotter, ben, on lâchait les étangs pour qu'il y ait beaucoup d'eau pour emballer ça. Puis il y avait des surveillants qui surveillaient des.
Ils poussaient, oui.
Ils poussaient pas, non, ils surveillaient.
Alors, du barrage de Pontière, après, comment ils faisaient pour le.
Ah ben voilà, ça c'est encore une chose que j'expliquais. Il arrivait là au mois de novembre. Au mois de novembre, c'était pas le grand flot. Le grand flot, c'était le mois d'avril. Alors là, il était. Parce que toutes les bûches étaient martelées en bout du marchand qui l'achetait. Et alors, il était relevé en pile, empilé à l'arrêt. Là, à l'arrêt, on appelait ça l'arrêt. Il y avait des poutres qui étaient au moins étaient aussi larges que ça, et qui traversaient la rivière sur des grands chevalets. Et alors, le bois arrivait là. Puis alors, il était entreposé, puis rempilé. Puis quand arrivait le grand flot au mois d'avril, à des équipes de gars, mais ils jetaient ça avec l'autre bois qui descendait hardi dans le jeune, jusqu'à Clamcy. Voilà ce qui se passait dans nos régions.
Et Clamcy, ça partait sur Paris. Paris.
Sur Paris, oui. Paris, principalement Paris. Oui. Oui, des péniches sur le canal du Néerlais, puis sur le par le train. Oui, eh bien voilà. Et là, ici, voyez-vous, de mon temps, moi j'ai connu ce fameux chou-fleur, ça tombe toujours, oui.
Oui, oui, oui.
Il y avait Jean Durobe, le propriétaire, qui était un grand camarade à mes parents, mon père et ma mère meunière aussi, puisqu'elle était au moins 16 ans au Moulin d'Hiverne, et alors ils étaient toujours en fusion, en relation ensemble, et alors quand j'arrivais ici, forcément, étant le fils de l'empereur, parce que ma mère s'appelait l'empereur Julie, tiens, le Joseph de l'empereur, comment qu'elle veut dans le temple. On posait et il me disait, allez, mets-toi à table et puis tu vas casser la couche. C'était de l'autre côté, certainement.
Oui.
Oui. On se mettait à table de l'autre côté. Alors c'était du bon pain blanc du meunier, bien entendu. C'était une tranche de jambon, il y avait toujours quelque chose. Et puis il avait une femme, Marie. Femme merveilleuse. Oh, tu vas pas t'en aller, mon enfant, appelé si loin avec ton boycot, avec ton pauvre petit ministre. Sans casser la croûte, eh ben tu vas casser la croûte, eh ben mon vieux, d'ici que ta fournée soit moulue, il y en a pour longtemps. Alors on cassait la croûte, et puis on partait dans l'après-midi, en emportant le sac de farine pour passer la semaine. Voilà. Et à l'époque, il y avait donc ce fameux chou-fleur aussi, un gars qu'on appelait chou-fleur, un meunier, un gars qui roulait, on l'appelait chou-fleur.
Un commis alors
Un commis, oui. Mais avant, il y avait une famille des Gabins de Savoie. Avant la guerre de 14. Et pendant aussi, pendant la guerre, il y a eu un gabin qu'on appelait Boulot. Et sa fille est mariée au Pombras avec le Pierre des Pombras. Enfin, c'est pas le pire, non?
Non.
Et on l'appelait le Boulot et il travaillait ici avec Jean Durobet. Oui. Puis après, il y a eu un nommé André Martin. André Martin qui lui roulait avec un bourricot qui était aussi grand que ça, passait dans les villages avec les sacs, tout ça.
Alors
ça.
À peu près en quelle année?
Ah ben ça, ça allait chercher en 1923 à peu près. Martin en 1923. Le chou-fleur, je vous parlerai ça en 1917-18. Et André Martin, c'était parlant en 1921, 22, 23 dans ces années-là.
Oui. Il n'y a pas eu d'interruption entre 25 et...
Ah ben après il est venu un nommé Baudin, qui s'est marié avec une fille, Louise, élevée ici au Moulin. Et ce Baudin était comme commis, comme meunier. Il a fait connaissance de cette fille Louise, et par la suite ils sont mariés.
Louise Robé.
Ah non, c'était une fille d'assistance. Ah, alors là, je ne me souviens pas de son nom.
Les meuniers, les Robé, ils avaient des enfants.
Oui, il avait Maxime. Maxime.
Et Maxime qui a repris après.
Oui, et puis.
Alors, Louise, vous dites, ça remonte à combien alors?
Louise.
Oui, je veux dire pourquoi je note le prénom Louise. Parce que sur toutes les poutres, dans toute la maison, il y a écrit Louise.
Ah bon?
Eh bien, c'était la Louise.
Dans toute la maison, il y a écrit Louise.
C'était la Louise.
Ah. Bon, là, c'est plus j'ai nettoyé, mais...
Ah ben, je vais vous dire.
Partout, il y avait écrit au crayon de papier, Louise.
Ben, c'était en 1920.
C'est peut-être elle qui écrivait son nom.
Ah oui, certainement. Comme moi, dans ma bergerie, j'ai inscrit toutes espèces de choses. Ah, ben. Alors, c'était cette Louise qui s'est mariée par la suite avec un commis qui a été ici, avec un ouvrier meunier.
Mais qu'est-ce qu'elle faisait, là?
Elle avait été élevée là. Oui, puis elle a été à l'école à Ouroux. Et puis alors quand elle est venue là, je voulus, eh bien elle est partie, elle a resté peut-être quelques années ici, je crois, avec Jean Durobé. Et puis elle s'est mariée, justement, oui, elle s'est mariée avec ce garçon-là, avec Louis Baudin. Mm-hmm. Et puis alors Louis Baudin était routier, roulait avec les chevaux. Puis elle était employée ici avec sa maman, puis Jean Durobé. Oui. Et puis alors après, ils sont partis à Paris.
Je me demandais qui était
Louise. Ben ouais. Et cette Louise s'est mariée, a perdu ce Louis très jeune, il est mort assez jeune, et elle s'était remariée avec un homme Potier de Vomino. Et lui, il s'est pendu, il n'a pas tellement d'années, il a 5-6 ans, il s'est pendu à son domicile, et elle est morte, elle est décédée là, peut-être un an ou deux à l'hôpital de l'homme.
Cette fameuse Louise.
C'est ce que vous dites, oui. Très gentil.
Mais c'est toujours des Robés qui ont continué à faire meunier.
Ah, bah oui, c'était le fils Maxime. Et puis alors, après, ça s'est éteint tout doucement.
C'était à peu près en quelle année, le fils?
Après, ça a été Maxime.
Ça a été cherché plus loin. Après, ça allait. Maxime, c'était pour l'an 27. Moi, j'ai rentré du régiment. J'ai rentré du régiment en 27 et j'étais dans une forge là-haut à Courgermain. C'est un forgeron de la Côte-d'Armain, et c'était lui qui s'est mouillé ici. Alors donc, c'était dans les années 1930.
Et puis, il a revendu à
Bourillot. À Bourillot, il a rajouté à Paris.
23 ans, c'est ça, 23 ans.
Oui,
Bourillot.
Oui, aussi, c'est aux parents, je ne sais pas, mais enfin, c'est les Bourillot comme ça.
Il a déjà 20 ans. Et vous avez acheté en 3 ans.
Oui.
Alors,
3 ans, 81. Eh oui. Ah, le moulin de Mial. On en a fait des petites virées. Le four. La région, dans les communes par là, partout, ça sort de la carrière de Quezon.
Et ces pierres-là, vous croyez que c'était taillé dans ces...
Non, pas celle-là.
Pas celle-là.
Non.
Parce que moi, on m'a raconté que
ça, c'est pas taillé chez nous.
Ça doit être très vieux, ce type de taille.
Ça a été moulé, ça.
Et on m'a dit que ça devait être une cheminée de Châteaufort qui a été
réemployée.
Ah oui.
Réemployée après.
À l'arrière.
La
véritable cheminée, c'était les corbeaux.
C'est ça, comme ça, oui. Moi, j'ai jamais vu ces gros...
Non, ça n'existe pas.
En fait, ces trucs-là, ça doit être récupéré certainement dans un château fort à l'époque, le château fort qui était
à l'époque. Ça tient toute la pierre de la cheminée.
Ah oui, d'accord.
Mais ça, ça peut venir des fois, comme dit madame, d'un château quelconque, les brouillons.
C'est ce qu'on m'a dit, mais je
les brouillons, c'est parvenir.
On taille encore de la pierre comme ça ici.
Sur Saint-Germain-de-Modéon, par là.
Qu'est-ce que je veux faire relever la cheminée avec une pierre comme ça en dessous.
Ah oui.
Il y a encore des tailleurs de pierre ici dans la région.
Vers la Roche-en-Brenil, il y en a.
Ah, la Roche-en-Brenil, oui. Mais nous, à Cueuzon, chez nous, il y a une grande carrière de taille. Les auges, vous voyez les auges qui vont voir les vaches, que c'est creusé pour alimenter les bêtes. C'était coupé là dans les. Ils ont sauté la mine, ils ont joué la mine dans les paquets de pierres qui se détaillaient, qui se déportaient, qui se cassaient. Ils choisissaient les morceaux qui leur plaisaient. Bon. Alors, il était gentil comme tout. On l'attachait là pour le petit ministre, on lui donnait un petit peu de foin qu'on apportait. Et il était là.
Il y a encore un fer là.
Il y avait des anneaux.
Et ça, c'est un essieu de roue, hein, ça.
C'est la fonte.
Il est beau, hein.
Oui. C'était libre. Allez, je ne sais pas si vous mettez là-dessus. Non. Il y en avait dans tous les moulins. Mais ça se casse facilement,
Oui, c'est.
Je peux l'enlever.
Mais il y avait des pales qui étaient emmanchées là-dessus, des pales en bois qui étaient emmanchées dessus. Pour quelle utilité, je ne sais pas.
Ça, tu le remets sur.
Oui.
Prêt.
Auto. Et puis il est prêt.
C'était de. Le ministre s'est attaché. C'était d'aller faire un tour sur les pas. Je vais voir l'état de l'état. Chez de Glaise.
D'accord.
À peu près comme ça, bien. Là.
Voilà.
Et tout le restant, c'est des pierres et puis de la terre.
D'accord.
Voilà. Et ils montaient ça tout ensemble, puis tout ça était damé.
L'année dernière, ils ont fait refaire les deux pelles parce qu'ils étaient pourris.
Alors,
il a refait la pelle. Là,
ça, c'était la pelle pour le moulin, ça. Pour
c'est comme l'alimente, oui.
Oui.
Ça alimente toujours.
Oui, puis alors, il y a une autre pelle pour la vidange.
Juste à tourner avec la manivelle.
Il y a une autre pelle par là encore.
La font tourner parce qu'il faut que le bois il soit humide pour se conserver.
Oui, alors, vous voyez. Bien humide. Vous voyez là-haut, en profondeur de l'étang, l'eau arrivait par-dessus, la charge d'eau dans les godets. Ça emmenait le moulin très facilement. D'accord. Et puis il n'en fallait pas beaucoup. L'eau n'était pas tellement plein quand ça descendait. Hein.
Ça descend dans le truc, dans le bac.
Oui.
Ça a une drôle de force.
La pression.
Ça l'emmène facilement, la roue.
Elle était déjà lancée, puis en même temps, Puis en même temps,
Parce qu'elle tourne comme ça, parce que les godets, ils sont à l'envers. Comme ça.
Comme ça, oui.
Oui, c'est la roue, c'est le sens. C'est le sens par là-bas.
Ce que vous appelez le coussinet, c'est
là où ça tourne.
Repose dessus.
Alors, graissé, très souvent, ça ne suffisait pas.
Aux gens de mettre la graisse dessus.
Et c'est un bois spécial, non ?
La vieille roue.
Non, mais le coussinet, c'était un bois, non ?
C'est un bois, c'est dur, du hêtre peut-être. Du hêtre, certainement, oui. Du hêtre.
Et c'est quoi le gros morceau là?
Non, je l'ai calé là. C'est on l'a repeint, on l'a fait tourner là pour le repeindre à l'intérieur.
Elle était bien plus importante.
Vous voyez, passer tout au xylophène l'extérieur.
D'accord.
Pour l'entretenir.
Elle pesait au moins plus d'un mètre de diamètre de plus que celle-là, au moins.
Et il y avait déjà la couverture.
Non.
Ah, il n'y avait pas la couverture.
Non, elle était à nu comme ça.
C'est bien d'avoir fait la couverture.
Elle arrivait comme ça dessus. Oh là là, elle était bien plus grande que ça.
C'est assez récent, ça.
Ah oui.
C'est-à-dire que ça
ils ont dit. Sûrement. Hein.
Et vous voyez, quand, au moment de la frite détruite, détruite frite d'ailleurs, vous êtes passé pour.
Oui.
Eh bien, elle frite au mois de novembre, la première quinzaine de novembre. Eh bien, quand l'eau était montée, les eaux montaient, elles arrivaient à remonter d'un seul coup de queue par la roue, quand la roue tournait. Quand la roue, quand il a chez l'eau pour mouille, au moment de la frite, elle monte dans l'étang.
Tiens, mais oui.
Ils
aiment bien.
Ils font la cascade encore.
Ils remontent au bout là-bas.
Oui. L'eau, c'était le Dessargeau.
Le
Dessargeau, oui.
Ah bon?
Oui. Un moment là-haut. Dans le temps, on n'appelait pas ça le déversoir en mormant à titre mormandio. C'était le Dessargeau.
Ah?
Le Dessargeau, oui. Le Dessargeau de l'étang.
Ah bon?
Oui.
Alors là, c'était une petite fontaine dans le fond, là.
Pour aller chercher l'eau.
On allait chercher l'eau de vie, là.
Pareil au moulin d'hiverne. Le moulin d'hiverne qu'on va aller tout à l'heure, il fallait passer en dessous la levée. Je vais vous la faire voir.
si on peut avoir accès. Mmh. Et l'alimentation du moulin, c'est pour Miage, c'était là, et puis Auvergne, c'était de l'autre côté.
D'accord.
Oui. Ben nous, au début, on cherchait le feu. À côté de Bourges, là, il y avait deux huileries dans un pays qui faisait peut-être 700 habitants seulement. Mmh. Et ça tournait, les meules tournaient avec les chevaux.
Avec un cheval, oui. Avec un cheval.
Ah, ici aussi.
Ah oui, avec un cheval ou une vache.
Ah bon.
Une vache. Moi, j'ai vu tourner avec une vache à gauche.
Ah bon.
C'était une vache dans le manège et puis la vache tournait.
Ah bon.
Tournait sur cette grosse pierre qui écrasait la navette, quoi.
D'accord. Ah oui.
Et alors le
à Courgermes.
Courgermes, oui. La première, ben ça existe peut-être toujours encore. C'est la première maison à droite en arrivant en venant d'Ourou.
Ah oui, d'accord. Oui. Mais ça dépendait pas d'un moulin.
Ah non, c'était un huilier.
Ah oui, c'est
moi,
un.
Moi, je l'ai vu faire lui là.
D'accord.
J'ai connu même toute la famille.
C'est un métier bien particulier.
Ah, il était cultivateur, il avait deux vaches et puis en même temps, ben, il faisait son huile.
D'accord.
Et alors les gens toujours pareil, c'était toujours la même méthode qu'un meunier. Le jour qu'il n'y avait plus d'huile ou qu'elle commençait à manquer à la maison, la maman disait, eh ben vieux, il n'y a plus beaucoup d'huile dans la toule, hein, et une toule de 5 litres. Eh ben, qu'est-ce que tu veux pour vieille? On va aller en faire, quoi. Alors on récoltait la navette.
Voilà.
On récoltait sa navette, on avait sa navette à soi. Mmh. Alors on en mettait la valeur de la toule, qu'on savait à peu près ce qu'il fallait, dans un sac. Et puis on partait avec ça sur le dos, et puis la toule en grès. Mmh. Et puis on partait, ben, puis on attendait que l'huile se fasse, on partait le matin pour rentrer le soir avec la toule d'huile.
D'accord.
Vous voyez qu'on prenait le temps de faire le boulot. Hein. Et quand il savait qu'il venait au moulin le matin, mais il savait qu'il s'en allait que l'après-midi. Hein.
Oui.
Parce que vous ne pourriez pas enlever le grain d'un gars qui était le grain qui était dans une tramie, dans la tramie, on ne pouvait pas l'enlever pour prendre la place. Mmh. Que soit, il fallait attendre que sa farine soit toute partie parce qu'il ne voulait pas que sa farine soit mélangée avec la vôtre.
D'accord.
Non, mais tout ça, c'était des problèmes. Et vous voyez, c'était bien choisi quand même parce que c'était creusé aussi bien d'un côté que de l'autre dans la roche.
D'accord.
Ça ne peut pas bouger. Hein.
D'accord.
Oui. Bon, eh bien, on va s'en aller parce qu'on
On
est veillé dans le moulin.
Mais ils faisaient un peu de culture aussi, les meuniers, non? Ils avaient des bêtes, quelques bêtes.
Tous ces points-là, c'était à eux. Il fallait nourrir les chevaux étaient là-dedans, les cochons.
Ah, oui.
Il y avait un verra. Ah, oui. Il y avait un verra, on y amenait les truies.
Ah d'accord, ils avaient le verra.
Ah, constamment. Il y avait un verra, puis ils avaient toujours deux truies.
D'accord.
Et puis il y avait l'écurie des chevaux, l'écurie. Ah mais je sais pas si. Vous étiez des chevaux, c'était plus loin, non? C'était celle-là l'écurie des chevaux, la première là.
Ah bon?
Oui, puis là, alors les cochons là-bas, après ça a été transformé là-haut. C'est une porte qu'ils ont fait percer là-haut.
D'accord. Je crois.
Et là, les cochons étaient là, et puis il y en avait peut-être bien encore là-dedans, les cochons. Je ne me rappelle pas où. Oui. Mais ils avaient un verra.
Oui, oui.
Et je me souviens, on avait une truie à pelu, on a mis la truie au verra là.
Ah, d'accord.
Ah, oui. C'est pourquoi que j'ai de grands souvenirs dans tout cela. Hein.
Mm-hmm.
Oui. Mais l'entrée du moulin, la maison, c'était là.
Et là, c'était quoi le petit.
Ah, là-dedans, je ne me souviens pas.
C'est un petit débarras aussi.
Oui, là-dedans, je ne me souviens pas ce que c'était. Alors là. On va citer certainement une remise pour mettre,
Du bois. Ou...
Ouais, c'est un petit toit.
Ouais,
c'était un toit de porc, sans doute.
Ou de poule. Ou...
Oh, c'est un toit de porc, ça.
Ouais.
Tiens, Légon.
Ouais.
Ah oui.
C'est ce qu'ils faisaient dans les dépendances.
Ah, ben c'est, j'explique à monsieur. Ils avaient un verra constamment ici. Vous savez, un mâle cochon. Oui. Alors, tous les truies de la région, ben, on les amenait là.
Là.
Chez mes parents, on avait une truie, ben, on l'amenait là.
D'accord.
Alors, c'était encore toute une histoire quand on amenait la truie au mâle. Il y en avait pour la journée. Partait le matin, puis le père disait surtout c'est prendre les mâles, surtout ne la ramène pas trop vite. Alors, des fois, on arrivait, elle prenait pas les mâles tout de suite, fallait attendre. Les gens sortaient sur la porte du moulin. Elle les a-tu pris, oui. Non, pas encore. Eh bien, t'as mis un petit peu, on le verra autour. Alors, fallait attendre le moment qu'il monte dessus, puis qu'il fasse son affaire, quoi. Alors, quand elle avait pris les mâles, bon, on partait doucement.
Alors, j'ai eu l'occasion de voir encore
des canards.
Je n'avais pas.
Ah, ils avaient quand même du bon temps.
Ça, mais inimaginable. Ici, vous arriviez ici, dans ce moulin, mais c'était un village. Il y en déboule à tous les côtés. C'est un chemin qui monte à Miage, là. Il va faire le tour là au Lui-Rodeau.
Ah,
c'était leur chemin principal pour sortir avec les.
D'accord.
Étant chargé, sortait toujours par là.
Et alors, à la place de la route, là, il y avait un chemin aussi.
C'était un chemin, mais c'était pas tellement carrossable. Il était carrossable, mais il descendait plutôt à vide par là. Là, c'était le chemin qu'ils empruntaient en charge.
D'accord.
Quand ils partaient le matin avec les chevaux puis le bourrico qui était chargé, ils démarraient par là, puis ils faisaient le tour, puis ils partaient.
D'accord.
Dans la région. Là, ah. Ah oui, tout ça, c'est... Des boulins, non. Et puis on dit, où il y avait toujours du passage là-dedans. Ah, ouais. Ah, le moulin de Mire, ça a été vraiment un coin vraiment gracieux.
C'était terminé maintenant, parce qu'il y a du monde, on en voit pas beaucoup.
Des gens qui l'habitaient, les gens disent, il fallait voir ces gens que c'était. L'aimabilité qu'ils avaient avec les... Ils recevaient tout le monde.
Alors, il serait mort quand, ce Jean Durobé?
Ah, mais faut, je ne peux pas vous dire.
C'est un moment qu'il est mort.
Hein, il est mort, j'étais rentré du régiment, parlant 28, 29, je ne peux pas vous dire.
Oui. Je ne sais pas, son fils, il n'est pas mort cette année ou l'année dernière?
L'année dernière.
Le Maxime.
Le Maxime, alors.
Oui.
Ah bon?
C'était son fils, oui.
Le Maxime, il est mort, oui, l'année dernière.
Oui. Et il restait où?
Au-dessus.
Ah bon?
Oui, il y a une petite ferme là-dessus.
D'accord. Oui.
Je me souviens, une année, on y faisait une piquerie là-dedans, tiens.
Ah, vous
la piquerie à la couverture. Oh, ça rabattait les gars, on rabattait de partout. On savait, la piquerie, elle était annoncée depuis le mois de septembre, au moins. Hein.
Ah, bon.
On la faisait au mois de décembre, on savait qu'à Miage, ou à Lurodo, ou en notre pays, il y avait, ou au Bondé, il y avait une piquerie à telle époque.
Oui.
Ah, vous pensez si on lauriait ça, hein. Parce que la piquerie, c'était vraiment le grand branle-bas.
Mais le Maxime, là, il a des héritiers, non?
Non.
Est-ce qu'il n'aurait pas eu des photos, lui, du moulin dans le temps
ou... Ah, peut-être, si. C'est une chose qu'on peut se poser.
Je sais pas, il était malade, les enfants étaient le voir. Là,
il avait perdu une fille très jeune fille, à l'âge de 20 ans.
Le voir, et puis alors, ça ne l'intéressait pas. Lui.
Ah bon? Ah d'accord.
Monsieur, Jean, vous pouvez bien nous dépêcher. Hein.
On va y aller.
Alors, Moulin des Vernes.
Oui. C'est en batterie.
Oui.
Bon. Oui. On va commencer la séance. Alors, voilà le ruisseau. Nous arrivons à la queue de l'étang. Voilà le ruisseau qui descend de sous Montpensy, les sources qui se mettent de Montpensy, qui alimentent déjà par ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a un autre ruisseau,
ah bon.
Un petit ruisseau qui vient de Courgermain, oui. Qui traverse au grand virage là-haut de Courgermain. Et il descend là, un petit peu sur la droite. Et il retombe dans l'étang du Moulin des Vernes aussi. Alors nous arriverons là, à la queue de l'étang.
C'est un peu plus branche, déjà quoi. Bien plus humide par ici. Hein.
Ah oui, pour s'en faire avec ce branchage. Voilà. Alors là, c'est la queue de l'étang. Bien.
Ah oui.
Oui, alors les voitures qui venaient de Courgermain, ils faisaient le tour parce que la queue de l'étang, elle arrivait ici dans les Vernes, l'eau arrivait là-dedans.
Ah d'accord.
Oui. Oui. Avec Mme Barouin. Alors on était toutes, je ne sais pas combien, plusieurs. Elle m'avait photographié en train de pêcher avec une espèce de perche. C'était même bien réussi, hein. Oui. Alors les voitures faisaient le tour, voyez-vous, en descendant de Courgermain. Parce que de Courgermain, il y a un chemin qui descend là.
Oui.
Qui vient, mais très difficile. Alors les voitures, pas trop chargées, arrivent à descendre. Puis elles n'ont pas de passer sur la levée de l'étang. Les voitures faisaient le tour, des fois de crainte que les bêtes sautent dans l'étang. Hein.
Ah, oui,
il n'y avait rien que la... Ça, c'était le chemin pour venir au moulin. Oui. Vous voyez qu'il ne descend pas tellement à dos quand même.
Oh, hein. Bon, en effet, oui.
Et voilà, à 60 ans, il n'en descendait pas plus.
Oui, d'accord.
L'hiver, il y a beaucoup d'eau. Voilà.
Oh, bon, en effet.
Oui.
C'est rien du tout.
Voilà, c'est ça le ruisseau. Tiens, et là, je suis photographié là en train de pêcher.
D'accord.
Jacqueline me photographiait de là-bas, puis les autres étaient par là.
Je pêchais là.
Et c'est le chemin, là.
Ça, c'est le chemin, c'est l'ancien chemin. D'accord. Et on va retomber, on va le voir au bout du barrage.
D'accord.
Oui. Voilà. Les voitures, les vaches, les chevaux, tout ça, c'est plutôt par là pour venir au moulin.
Passait dans le chemin,
oui,
même
oui.
L'hiver.
Ah, l'hiver, oui, parce que c'était pas brûlant. Des fois, les gens qui étaient vraiment sûrs de leurs bêtes passaient sur la levée de l'étang. Puis il fallait quand même passer dans la queue de l'étang, alors les bêtes des fois hésitaient. Hein.
Oui, oui.
Puis c'était risqué des fois que ça saute des fois un faux pas ou n'importe d'une bête sauter dans l'étang après pour aller la chercher. Alors c'est le ruisseau qui descend de Montpensy, pas plus, il vient des sources là-haut.
Et vous ne savez pas le nom de ce ruisseau?
Ah non.
Le ruisseau.
Pour venir en notre projet.
D'accord.
Oui.
Pour braquer, là, il n'y avait pas de problème.
Ah, ça braquait tout seul.
Ça braquait, oui.
Oui. Alors là, on descend par là.
Oui.
Voilà, le grand chemin qui descend au moulin.
Bah,
et là les vaches, parce qu'ils avaient des vaches au moulin des Vernes. Il y a des sources, vous voyez.
Oui.
Il y a des sources, oui, elles sont là, vous allez voir ça. Et ces sources-là servaient à abreuver les vaches.
Elles sont ah là, bon là. Ah, d'accord.
Oui, elles sont là-dedans. Il y a des sources qui sont merveilleuses.
Il y en a dedans. Regardez. Voyez.
Ah oui, ça souhaite.
Là-dedans, c'est aménagé.
Oui, comme des auges.
Comme des auges. Et les vaches n'ont pas d'aller boire dans les temps que l'eau était très froide et qu'elles n'y essayaient pas.
Oui, d'accord.
Elles n'essayaient pas d'aller manger. D'aller boire, pardon. Elle venait directement boire ici parce que l'autre source est beaucoup plus douce.
D'accord.
Très, très douce l'hiver.
Oui, oui, bien sûr.
Alors elle buvait, se gonflait, elle était bien, bien dodue, bien saoule d'avoir bu d'autre source que dans les temps, elle n'aurait pas bu.
D'accord.
Elle aurait bu, mais difficilement, ça leur faisait mal. C'est comme si on buvait trop froid.
Oui, c'est ça, compris.
Exactement pareil. Ouais. Alors les abreuvoirs étaient ici.
D'accord.
Alors on emmenait les vaches, moi pendant la guerre, je me levais très bonne heure le matin, je me levais à 5h du matin pour poncer les vaches. Avant de partir dans les forêts, avant d'aller me cacher par là pour travailler,
oui.
Ben j'amenais les vaches boire, là, des fois, ils n'étaient même pas chauds, pas clairs, et puis on remballait ça.
Ah oui, parce que vous êtes venu, donc, vous cachez ici pendant la guerre.
Pendant la guerre, oui, oui.
Ah, oui.
En 44, à la fin de la guerre, quoi. Oui, je vous dis.
Pour éviter de partir au travail obligatoire.
Non, j'y étais justement.
Ah.
Il m'avait emballé là-bas, j'étais 2 ans et demi.
Oui.
Et justement, ma femme, n'ayant qu'un poumon, ayant un pneumothorax,
oui.
avait eu la possibilité d'aller passer une visite à Dijon, et puis d'avoir la possibilité de faire un certificat par un médecin allemand pour me permettre de venir en permission.
D'accord.
Alors j'étais en permission, mais j'avais oublié de retourner.
Ah bon.
Au camp là-bas, au déluge. Hein.
Ah bon, d'accord.
Ah, je n'ai pas retourné. Alors... J'ai dit, mon vieux, tant pis, arrivera ce qu'il voudra, mais je me suis... Puis là, c'est là que je suis venu atterrir ici au Moulin des Vernes. J'ai des gens que je connaissais comme si j'avais été de la famille.
Si. Ah, c'est le Moulin des Vernes, donc, toujours. Hein.
Oh, bah alors là, c'est un vrai désastre. Hein.
Oh, bah oui, là, c'est chaud.
Oh, pardon.
Puis ils ont l'air de refaire la pelle, là-bas.
Ah, oh,
ah, ouais, c'est bon.
Ah, alors, vous voyez, le moulin était indépendant.
Ah, d'accord, c'était là, la meunerie était plus bas.
Oui, oui. Vous avez changé le bricole ?
Oui, ça y est.
Ah
oui,
bon
oui.
Alors là, c'était la cave.
D'accord.
Oui, mais alors ça, c'est autre chose. Je vous explique autre chose. Ça a été construit longtemps après que ma mère a été là. Cette maison-là.
Votre père a été là hein.
Ah, ma oui. mère est venue, elle était née en 1872.
Oui.
Et elle est venue ici, sortant de l'école, étant enfant d'assistance, elle est venue ici à l'âge de 12 ans.
Oui.
Enfin, elle est restée un an chez ses parents adoptifs. Et elle est venue à 13 ans. Donc, ça la mettait en 1885.
Oui.
1885. Et elle est restée jusqu'à temps de se marier avec mon père. Elle est restée 16 ans. 16 ans ici. Alors donc, son pays où elle a été élevée, c'est pas à Chaumard, c'est ici.
D'accord.
Et elle avait de grands souvenirs de ce moulin. C'était des gens, des braves gens. Ces braves gens qui ont rien à trouver comme patron en arrivant. Elle avait
alors,
eu affaire...
Alors, quoi ce patron.
En arrivant, je vous l'avais dit déjà, qu'elle avait été chercher des petits loups là dans la forêt
oui.
en bas.
Oui.
Le nom de ces patrons.
C'était des nommés sabots. Enfin, on les appelait les pères sabots, les premiers et les vieux.
Ah bon.
Alors ma mère a eu affaire à ces gens-là, qui étaient très durs pour elle, ils lui ont fait les dernières misères. Et là, ils la prenaient vraiment pour un chien. Mais au bout d'un an et demi, 2 ans, il est venu une famille d'Igois, qui devait être certainement de la famille de ces pères sabots-là.
Oui.
Certainement. Ils arrivaient du Havre.
Du Havre.
Du Havre, oui, c'était au Havre. Tiens. Marié au Havre, oui. Le père Pierre Digois
oui.
et la maman Joséphine Digois étaient au Havre. Et ils arrivaient avec 2 garçons qui étaient du même âge, à peu près des mêmes âges que ma mère.
Oui.
Il y en avait un, le François, qui était de l'âge de ma mère, et le Claude Digois. Vous voyez bien les maisons qui sont montées en Montardigny. Un Digois qui faisait les Il n'était pas moniteur à Château-Chinon, un Digois.
Si, ça me dit quelque chose, ça.
Oui. Eh bien, c'est des descendants des Digois d'ici.
Ah bon.
Oui. Il apprenait à conduire, ce garçon-là, oui. quelques années. Ben, c'est ça. Oui. Et alors, ces deux garçons-là, en arrivant du Havre, étaient donc venus ici atterrir au moulin, mmh. avec les parents, le père Digois, le père Pierre et la mère Joséphine, et ils sont mis meuniers. Et ma mère avec eux. Voilà. Et les deux garçons. Alors les deux garçons roulaient dans les pays,
oui.
et puis le père Pierre Zemoud,
oui.
et puis la maman Joséphine s'occupait du moulin, de la maison, de l'intérieur de la maison, ma mère s'occupait de l'intérieur de la maison avec la maman Joséphine, et des bêtes, des cochons, enfin, vous voyez bien.
Le moulin, c'était ça.
Le moulin, c'était là en bas, oui. Alors du temps de ma mère, quand ma mère est arrivée, alors la maison n'était pas rénovée comme vous la voyez maintenant, l'escalier pareil, l'escalier n'était pas le même, mais l'escalier était dans le même emplacement.
Et le moulin était là. Et alors, l'écurie, il y avait une écurie et une cave qui était au-dessus, là, vous voyez, dans les broussailles. Là. Ah, on va y monter si vous voulez. Ah, et ce bâtiment-là, ça a été monté longtemps, ça a été monté après que ma mère était partie. Ah, bon. Ça a dû être monté par l'an 1903, 4 par là, à peu près, 4 ou 5.
Monsieur.
Oui.
Alors là. C'est monsieur.
Non, monsieur. Prenez pas peur, hein, c'est pas des gens. Ah, le fusil là, non. On descendait là-dedans.
C'était pas des friches, tout ça, dans le temps.
Ah, oh, c'était des prés. Oh. Tout ça était fauché. Il y avait des veaux là-dedans, il y avait des vaches, il y avait tout. Il y avait tout ce qu'on voulait.
Et le chemin, voilà.
Le chemin descend par le bois. Alors, il descend où, où je vous parlais, où Mme Barouin a photographié ce gros arbre,
ah, oui.
Ce gros charme.
Gros charme.
Où, où ma mère avait trouvé les deux petits loups.
Les petits loups.
Oui. Oui. Là, vous vous rappelez que...
Oui, oui, oui. Mais je pensais que c'était au moulin de Mignage.
Il n'y a que le petit bout d'ortie qui est là.
Oh non, 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 on en aura, c'est comme ça. Non. Parce qu'on en a encore à faire, on va encore dans d'autres... Dans
et alors, le petit rue, là, il descend...
Ah ben, le rue...
C'est le rue d'Ancin, ça, là.
C'est le ruisseau d'Ancin. C'est le ruisseau qui tombe au pont. Vous savez, il y a le premier petit pont que vous trouvez en descendant de Mignage, à la queue du lac, avant d'arriver au grand pont.
Oui, oui.
Vous traversez un petit pont, là.
Oui.
Eh ben, c'est le pont du rue du Moulin des Vermes. Oui.
Et alors il y avait...
Et tout ça, c'était cultivé. Tout ça c'était les pâtures, c'était bon là-dedans. Bon, ça poussait comme inimaginable.
Alors c'était le seul moulin qu'il y avait sur ce petit rue.
Oui, le seul. Le seul.
C'est le seul, hein.
Oui, ah ouais, le premier, le premier pôle alimenté, c'était ici. Il n'y avait pas allé beaucoup plus loin, vous savez. Pour trouver de l'eau, il n'y avait pas d'eau là-haut, il n'y a que ça. Et puis c'était comme à Mignage, quand les grandes chaleurs arrivaient. Ben, c'est là que ma mère... De là, ils allaient moudre à Sablot. Alors, vous voyez, le chemin qu'ils faisaient, remontait par ce chemin, vous le prendre, passer à Ourou, descendre à Sablot, et puis charger avec les chevaux, puis alors ils déposaient leur sac, et puis retourner les chercher deux, trois jours après, quand le meunier avait fait le nécessaire. Alors, ils ramenaient ici, pour satisfaire leurs clients. Alors, les clients revenaient avec les chevaux, avec les vaches, surtout, pour reprendre ça.
Puis c'est tombé quand, ce moulin-là, alors ?
Après les 10 bois, là. Moi j'ai vu, parce qu'après la grande roue, après...
Et la roue était où alors?
Je vais vous faire voir ça. Oui. Une grande roue peut-être au moins aussi importante que celle de Mignage dans le temps. Ah bon. Celle de Mignage, était bien plus grande qu'elle est là. C'était des grandes roues, grandes roues.
Et vous, quand vous l'avez vu tourner, c'était toujours des digois?
Ah oui, moi j'ai vu tourner. Moi j'ai vu tourner en 1916.
Oui.
Je suis venu ici pour la première fois autour du début d'avril 1916 avec ma mère. Oui. Qui nous avait amené avec ma frangine, je m'appelle toujours, et on avait emporté deux jeunes poulettes. Que la mère Joséphine nous avait donné. On arrivait à Seine-et-Oise à ce moment-là.
Ouais.
Et bon, alors, oui, c'est en 1916. Mais à ce moment-là, le moulin, il tournait bien.
Mmh.
Alors, c'était pendant la guerre. Alors, évidemment, il y avait tout le ravitaillement donné à tout le monde.
Mmh.
Et François, je vous parlais, François Digoin, avait été sur le front et il avait été renvoyé. Il avait été malade, je crois, des poumons, je ne sais pas quoi. Enfin, il avait été renvoyé et il avait repris quand même un petit peu. Et puis il était reparti, et aussi qu'après la guerre, en 18, à la fin, il avait repris son moulin. Puis alors, ça tournait bien, 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 tout le monde venait, comme d'habitude. Puis tout d'un coup, ça s'est effacé doucement. Comme je vous disais tout à l'heure, là, à Mignage, les grands moulins, châssis,
tous ces moulins,
ont pris ça en main, puis après, les petits moulins, ils sont tombés. Et par la suite, ils ont continué à faire moudre les farines de porc, le seigle, l'orge, tout. Et puis tout doucement, ben, ça s'est arrêté. Doucement, ça s'est arrivé. Et puis alors, là, il y avait une grande roue comme à Mignage, et la roue commençait à être défectueuse. Ils avaient pensé, puis même, toujours pareil, pour l'économie de l'eau de l'étang, l'étang n'était pas tellement conséquent, de mettre une turbine. Et cette turbine avait été changée en 1928. J'étais forgeron, moi, la roue à Cour-Germain, chez Anne Mégoudier. Oui. Et même, on a travaillé dessus, nous, je me souviens qu'on avait mis des barres de fer dans cette installation. C'était en 1928 qu'ils changeaient la roue, qu'on avait mis la roue en l'air, et puis qu'on avait mis une turbine qui n'adossait, je me souviens toujours.
Ah
oui,
bon.
Oui.
Alors c'était toujours les filles d'Igoua qui habitaient
c'était
là.
C'était toujours les filles d'Igoua qui habitaient là. Et alors, par la suite, eh bien, la guerre est arrivée, Marcel d'Igoua, le fils du François d'Igoua, est parti à la guerre, il a été prisonnier, et il est revenu, et après il est parti dans le déclin. Il a été malade, tout ça. Et sa sœur qui était plus âgée que lui, un an de plus, deux ans de plus, s'était mariée à Montpensy. Et lui était resté seul, elle est restée veuve aussi, elle. lui celui-ci. Ah. Et puis ils sont morts tous les deux vraiment misérablement.
Ah bon?
Oui, oui. Lui est mort vraiment dans une, je sais pas, drôle de fin de vie. Hein. Puis elle est un peu pareil.
Puis alors ça a été vendu?
Puis alors après ça a été vendu, oui. Ça a été vendu à Thomas, je crois bien à l'époque. J'ai pas, oui, oui, il me semble. Enfin Thomas, le gars qui mène le stand des chevaux à Ouro, vous savez.
Ah, la famille Thomas, ils sont à l'orme aussi. Là.
Oui, mais lui, il est à Châteauchino, il monte à un stade...
À
Châteauchino, oui.
Oui, vous êtes sur les types, tout ça, Thomas, dont on entend parler.
Oui, venez, je vais vous faire voir les anciennes écuries là-haut, avec la cape. Au coucher de ma mère, du temps de la mère Sabot, du temps de la mère Sabot, ah, que bon. Vous parlez, qui était si dur avec, qui a lui avait fait porter les deux petits loups, là, dans le grand
ouais,
char,
ouais, ouais.
Que Mme Barouet avait photographié. Eh bien, elle lui a fait porter les deux petits loups. Et vous voyez le traitement qu'elle avait, elle la faisait, il faisait porter les sacs chez les clients, étant gamine, avec un bricot dans la neige. Et le soir, quand elle n'a pas de se coucher dans un bon lit, elle allait se coucher dans les fougères là-haut dans la cave.
Oh
là. Oui. Alors quand des digois sont arrivés, au bout de 2 ans, tout ça a changé. Hein.
Mais les vieux sabots sont partis après?
Ah ben après, je ne peux pas vous dire, ils sont morts tout de suite.
Ah oui, ils sont morts.
Ils étaient déjà vieux. Oui. Oui. Alors l'entrée de la chambre était là. Ah ben je vais
là. Ah oui, d'accord.
Ah où je couchais, là.
Ah, c'était là.
Tout ça a changé. Hein. Ça a été fait par des gens qui n'étaient certainement pas bien de la partie. On voit bien le chemin. Mais alors là c'était là, il n'y avait pas de fenêtre. Ah, mais il n'y a plus. Non, ah ben là, on ne peut pas y monter. C'est là qu'est le chemin. Hein,
ah ouais.
Pour monter de la cave, vous voyez, de l'encadrement là, dans les arbres.
Ouais.
Eh ben, les bâtiments étaient là.
Ah, il y avait des bâtiments.
Ah, oui, il y avait des écuries pour mettre des vaches et tout. Parce qu'il vous dit, cette écurie-là, c'est ce bâtiment-là, a été construite après la grange et l'écurie. Là. Ça a été construit pendant 1905. Que là-haut, ben, c'était construit quand ma mère est arrivée, étant toute gamine.
Ouais.
Alors de là, quand ils ont vu certainement que ça commençait à flancher, les plus jeunes, les Digois, le François Digois, ils ont décidé de faire construire là. C'était beaucoup plus facile, l'accès était mieux, et ils ont laissé tomber ça là-haut.
Mmh.
Voilà, ben maintenant on va passer au moulin. Hein.
Ouais.
Alors voilà la belle dame et l'autre. Hein. Ah oui, c'est toujours la même maison, toujours aussi la même. La cour était pareille. Mais là ils ont remblayé pour mettre des poteaux et tout ça.
Ouais, d'accord.
Attention madame. Hein.
Mmh.
J'ai voulu pas glisser sur les gravillons. Hein. Oui, mais l'emplacement du moulin est toujours le même.
Quoi ouais.
Ah oui, mais...
Ah, il y a les meules encore.
Non, chez lui, il n'y est plus. Oui. Ah, les meules sont toujours là, oui. Les meules sont toujours là.
Voilà.
Vous voyez que c'était profond, hein.
Ah, oui.
La roue, elle était profonde.
Ah, dis donc, alors, c'était haut. Hein.
Ça, tout se passait ici, hein, tout ça moulait ici. Il n'y avait rien en dessous. Non.
Bah, dis donc.
Tout ça se passait ici. Le moulin était complètement ici, à l'étage au-dessus. Là.
Mmh.
Oui. Alors, les deux fenêtres, tout était pareil.
Ouais. C'était un grand bâtiment, ça, on n'a pas l'impression de...
Ah, oui. Il y a de la profondeur, il devait y avoir des fondations. Sur,
ouais.
Sur un terrain mou comme ça, il devait y avoir certainement des drôles de fondations.
Oh.
Ouais. Oui. À hauteur des piquets, là, vous voyez
ouais.
Vous voyez, là
oui.
Regardez l'axe, là.
Ouais.
Où il y a le trou, là.
Oui.
Eh ben, la roue, elle arrive à la hauteur des... entre les piquets et les fenêtres. La moitié était prise sur le trou que vous voyez là. Ah, vous voyez la hauteur de roue qu'il y avait.
Oh,
oui. Alors moi j'ai vu ça, j'ai vu la roue tourner, cette grosse roue qui était là comme ça, et puis de la hauteur que je vous dis. Et alors ce matériel que vous voyez là, c'est quand ils ont monté la turbine.
Ah oui.
Oui, ça a de la turbine là-dedans, je savais que bien encore.
Ça sent pas.
Ah, il y a toujours la turbine. Ce bon vieux bricot que nous avions. Et puis Digois. Il lui dit, oh ben Louis, non pas de. Il était à vide, il n'avait pas grand-chose. Ils n'ont pas de faire le tour autour de l'étang. Et il dit, t'as qu'à passer sur la levée avec ton bricot, il est facile. Mais quand il est arrivé un petit peu plus loin que votre dame, là, à le milieu, le bricot a eu peur, certainement du déversoir là-bas, ça faisait un rafut du malheur. Le bourricot a eu peur, l'œuvre l'a parti à tirer, mon père, mais le bourricot ne voulait pas, l'œuvre l'a parti à reculer. Le François était là sur le bord du moulin, sur la porte du moulin, quand il a vu que la voiture revenait puis qu'elle prenait la direction de l'étang. Il est arrivé, puis il a déporté la voiture, et tout ça, ça s'est arrangé.
Ah bon?
Autrement, le bourrico, puis la voiture, tout ça passait dans l'étang.
Yes. Oui. Puis il n'y avait pas d'arbres dans le temps, forcément, sur les
vers. Ah, ben, si, il y avait des vernes. Si.
Ah, il laissait pousser des vernes, quand
même. Mais, oh, mais malgré tout, hein, c'était possédé encore.
Ça devait déchausser les pierres,
là. Ah oui, ça faisait pas tellement d'eau, quand même. Hein.
Non, mais.
Et puis les deux ruisseaux sont là, hein, n'oubliez pas, les deux ruisseaux, ouais. Il y en a un en plus de là.
Ouais.
Oui.
Oui, ça fait pas beaucoup d'eau. Hein.
Oui.
Alors, toutes ces roues-là étaient des roues à godet, alors.
Ah, oui, les roues de moulin, enfin, où il n'y avait pas tellement d'eau, parce que malgré tout, vous savez, quand il arrivait des moments comme là en ce moment, que les sources ne sont pas tellement hautes, eh ben, quand le moulin tournait toute une journée, ça diminuait les temps. Hein.
Sûrement, oui.
Et puis, des fois, ils moulaient encore la nuit, ça arrivait hein, qu'ils moulaient la nuit. Oui. Ça dépendait de ce qu'ils avaient à la moudre. Eh bien, quand il arrivait que l'eau aurait diminué, ils auraient une roue à pales.
Oui.
Eh bien, ils en avaient pour une demi-heure, pas une demi-heure, une demi-journée, et puis l'auto était parti avec des machins à godet, des roues à godet comme ça, ça économisait l'eau. Hein.
D'accord.
Ah oui. D'ailleurs, ces roues-là ont été conçues uniquement pour ça.
Oui, oui.
Pour avoir la possibilité que l'eau s'engage dans les godets, oui. Pour faire la charge, pour emmener l'eau. Que ça ne demandait pas tellement d'eau qu'à Pâle, il fallait que ce soit sur un grand cours d'eau, sur une rivière, qu'on était sûr qu'il ne manque pas d'eau. Hein.
D'accord.
Hein. Là, sur Lyon, sur Loussière,
ouais.
On a un moulin de Chaumard. À Chaumard, il y avait un moulin aussi.
Oui.
Ah ben, c'est un moulin à Pâle.
À Pelu aussi, alors.
À Pelu, à Pâle aussi, oui. Ah, oui, ah, oui, ah, oui.
Et le moulin de Chaumard, il n'existe plus.
Ah non, non, il est pris sous l'eau aussi.
Ah ben, il est pris sous l'eau, forcément. Ah, oui. Ouais. Puis en remontant sur Corancy.
Ah ben sur Corancy, il y avait le premier moulin, c'était le moulin des moulins.
Ah oui, les moulins, oui, oui.
Qui étaient les roquelles.
Ah, c'était des roquelles qui restaient là.
Ah oui, les roquelles qui sont au moulin de Sablo, là, de Savoie. Au moulin de ça.
La famille.
Ben c'était la famille direct. L'Henri qui est mort.
Ah oui, c'est ceux qui ont été chassés.
Le père du Jean,
oui.
Qui est mort.
Oui.
Bien connu, Jean. Eh ben son père, l'Henri, il est né au moulin de Corancy.
Ah, d'accord.
Mais le nom du pays, ça s'appelait Les Moulins.
Oui.
Oui, et puis alors au-dessus, il y avait le moulin de Corancy.
Qui existe
le moulin
toujours.
De Corancy où il y avait un nommé Chamanton. Ah. Ben, maintenant, ils ont transformé ça en élevage de truites.
Ah oui, c'est
oui. Bien. Eh ben, on y allait mouler aussi à Corancy, avec ma sœur. Et puis toujours ce fameux ministre. Oui, regardez voir le trajet qu'il fallait faire pour aller faire moulin. Un peu de farine, hein. Alors on partait le matin, bonne heure, avec 4-5 sacs sur la voiture. Et puis il m'a fait débrouiller-vous, il faut ramener quelque chose pour nous faire manger, puis pour faire manger les cochons. S'il ne peut pas tout mouler aujourd'hui, ben vous prendrez le restant quand vous y retournez la semaine prochaine.
Et quand vous aviez fait toute cette farine-là, vous la conserviez où, la farine?
Ah, ben on ne la conservait pas tellement, vous savez. Quand on avait des fois une fournée, mettons, de 5 doubles à peu près, hein. Une fournée de 5 doubles de blé.
Ça fait combien à peu près?
20 litres. 20 décalitres, le double. Oui, et ça ne faisait pas tellement. Alors une fournée, elle faisait des fois 15 jours.
Hmm?
15 jours à peu près. Et les cochons, il fallait que les cochons mangent.
Oui, oui.
C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de concasseur, il n'y avait rien du tout. Par la suite, de certaines personnes qui avaient la force pour tourner, acheter des concasseurs à la main, là.
D'accord.
Alors, c'est toujours pareil hein, quand on a besoin des gens. Où il y avait des filles comme la ringette, où ça tombe toujours.
Oui, oui.
On allait les soirs boire un canon, puis rigoler, essayer de danser un petit peu. Et puis la mère de la bistrotte, là, vous la connaissez pas, l'Hélène, là?
Non.
Vous connaissez pas? Sa mère, c'était la Marie-Louise du Jean-Marie, qu'on l'appelait. Ah, les gars, oh, il y a des bons gars. Oh, ils sont gentils, attends, on ne bouge pas. Allez, ben, vous venez, on veut vous embaucher. Alors, elle nous embauchait à quatre jeunes gars qui avaient 17, 18 ans. Et puis, on se mettait à quatre après les manivelles. Elle nous faisait qu'on cassait la farine pour ses cochons pour toute la semaine. Ah oui?
Elle profitait de ça.
Mais oui, elle profitait qu'elle avait une fille. Puis qu'il y avait des filles depuis qu'on était là.
Oui.
Alors, elle disait, tiens, puis vous savez bien ce que c'est quand on est jeune. On est jovial pour tout ça.
Oui.
C'est à voir lequel qui va faire mieux que l'autre. Elle est retombée pour ses manières. Et ça sortait la voix des pilotes. Hein. Et en même temps, la petite mère rigolait, elle, parce que ça pensait de l'avantage que ça faisait. Son mari n'était pas tellement fort. Elle avait des gamins en bas âge, alors c'était pas pour, parce que c'était dur à tourner.
Oui, oui.
À concasser à main comme ça, voilà. C'était comme les battoirs. Les battoirs que vous avez vus quand ils font leur fête folklorique.
C'est ça, oui.
Les battoirs tout en fer.
Oui.
Eh ben, les gens qui tournaient ça toute une journée.
Oui, oui.
Tournaient à la main.
C'est sûr que c'était pas évident.
Alors ils se relayaient, ils se mettaient à 4. Oui. À 4, 4 et 4, 8. Puis ils tournaient pendant chacun une heure, puis ils se relayaient, puis tout le temps, puis tout le temps.
Oui, oui.
Oui. Ça faisait un drôle de raffut, hein. Oh, ça en faisait un bruit avec cette ferraille là-dedans qui tournait.
Et le meunier de Boutenot, alors vous l'avez bien connu, vous?
Ah, je l'ai connu. Oh, bien, bien, non. Mais je l'ai connu. J'ai eu affaire avec lui, d'ailleurs.
Parce qu'il était déjà âgé quand vous étiez gamin?
Pas tellement. C'est pendant la guerre que j'étais le voir.
La dernière guerre?
Oui, pendant la guerre, c'était par là. J'avais été le voir dans le bureau que je partais en Allemagne.
Ah, d'accord.
Et je voulais acheter un soufflet parce que... comme à Paris, la maison où j'étais n'était pas arrêtée directement, mais enfin, ça ne tournait plus. Puis comme on avait été tout désorganisé, tout désorienté, alors ils nous avaient dit, ben, attendez un petit peu, les travaux vont prendre, puisqu'on travaillait pour la marine de guerre. Mmh. Et quand il y aura des commandes, ben, le travail va partir en grand. Et entre-temps, ben, je faisais un petit peu de forge dans la cuisson. Pour me dépatouiller un peu, quoi, pour faire un peu d'argent.
Ouais.
Et puis j'avais été voir ce meunier de Boutenot, là, qui lui en avait un souffle avant, et puis, je sais pas, il y avait quelque chose qui ne marchait pas.
C'était un quoi, ce meunier-là? Il s'appelait comment?
Ah ben c'était... Ah là, je ne me rappelle plus son nom. Clément me l'avait bien dit, mais je ne me souviens plus. Ah bon, moi, de m'en rappeler.
Ouais.
Oui. Et lui, il avait, ben, il avait une batteuse, il avait... Ah, lui faisait de l'huile.
Ah, il faisait de l'huile.
Oui. Alors lui, il ne moulait pas pour la farine. Hein. Il moulait que les farinages de cochon.
Ouais.
Et puis l'huile.
Ah bon?
Oui, oui. Mais puis le moulin n'était pas tellement conséquent, c'était un petit moulin.
Ouais.
Et un petit étang, mais enfin qui tournait toujours quand même.
Ouais. C'est au-dessus de Boutenot, c'est placé au-dessus de Boutenot.
Non, quand vous arrivez chez Clément, vous êtes chez Clément.
Ah bon?
Eh bien un peu plus loin, en suivant la route.
Ah.
Un peu plus loin, oui.
Ouais. Je vois pas l'étang.
Ah, mais il est au-dessus.
Ah, l'étang est au-dessus.
Il est au-dessus du moulin.
Ouais. Mais il n'y a plus la roue non plus, là.
Ah, si, si, si.
Ah bon, la roue, il y a toujours.
La roue, il y a toujours, me semble bien. Oui, oui, oui.
Ah bon.
On l'ira un jour.
Oui, oui, il faut
que... Je le dirai à la Thérèse, on l'ira.
Ah oui.
Oui. Le club reprend au mois de septembre, dans les débuts de septembre. Vous n'avez pas chez les avoir avant, je lui demanderai.
Oui.
Et puis on ira un jour voir une petite tournée. On ne va pas passer loin, mais on n'aura pas tant d'aller.
Ben oui.
Fait qu'il est 5 heures,
bientôt. Oui, puis il vaut mieux la prévenir.
Oui.
Et alors, ce meunier-là, il était parti un petit peu à Paris, vous dites.
Ah, dans sa jeunesse, oui. Et alors, intelligent comme il était, il enregistrait tout. Et il s'était modifié, fortifié dans un peu dans tout, dans le bois, dans tout, dans la mécanique surtout.
Oui.
Mais il faisait toutes ses lois, hein.
Ah bon?
Il avait un train de batteuse. Il avait la chaudière et puis la batteuse, quoi. Et ben, toutes les réparations mécaniques, la chaudière, tout, c'était lui, ça lui passait tout dans les mains.
D'accord.
Il tournait sur tour sur métaux, tour sur bois et tout.
Et il était musicien en plus.
Ah, puis musicien, oui, puis il paraît qu'il jouait drôlement. Hein.
Vous l'avez jamais entendu jouer?
Non, non. Ah non, j'ai jamais entendu jouer. Mais Clément m'a dit, et mon premier, il fallait l'entendre jouer. Et Clément, déjà comme musicien de l'oreille, hein, il était,
ah oui,
il était déjà bon, hein,
oui, oui.
Au violon même.
Oui, oui, oui.
Ouais. Ah. Ouais. Et alors, ben, étant tout jeune, Clément, ben, il avait l'amour de la musique. Il allait vers le meulet.
Oui.
Et alors, il lui donnait des leçons, puis comme Clément, ça lui plaisait beaucoup, ben, Clément est devenu un bon musicien aussi. Mais il a eu un bon départ, hein.
Oui, c'est ça, il t'a bien montré.
Ah oui, bon départ. Et vous savez, dans tout et pour tout, hein, quand vous êtes pour apprendre quelque chose, si vous avez un bon départ, bien montré des choses qu'il faut faire,
ouais.
Eh bien, je crois que c'est bon, hein. Dans n'importe quel métier, dans n'importe quoi.
Et au moulin de Savelot, c'est il y a toujours la roue, là.
Ah oui, mais une roue en fer.
Ah oui. Mais à Godet aussi.
À Godet, oui. À Godet. Oui, à Godet, oui. Et quoi que sur le chalot, l'eau ne manquait pas, mais enfin.
Il y a un bief alors.
Il y a un bief, oui, qui prend assez loin là-haut, assez loin presque sous le pont de Gazon.
Ah
oui.
Ouais.
Oh, mon dame. Il est dedans.
Oh non, elle est dure. Ouais.
Où encore ? À Mignage, non, à Mignage, ils prenaient le grand chemin là derrière. Je ne me rappelle pas qu'ils mettaient de vaches devant. Mais dans tous les moulins difficiles comme ça, ils mettaient une paire de vaches.
Ah oui ?
Avec deux vaches, ça allait, ça. Mais... Ouais. Un cheval qui avait seulement, qui avait eu, mettons, 20, 30 doubles décalites avec la carriole qu'ils avaient, des grosses voitures, des gros sauts comme ça. Et puis les chemins comme ils. Enfin, parce que ça grimpe, hein.
Oui, oui, là, ça grimpe. Puis c'est...
Et ils ne mettaient pas deux chevaux parce que l'autre cheval, s'il y en avait un deuxième, il était attelé pour une autre voiture pour aller sur une autre tournée. Hein.
D'accord. Ouais. Mais les meuniers, ils avaient des chevaux à eux.
Ah, les chevaux à eux, oui.
Pas de mulets.
Ah non, non. Il y a, généralement, dans la région, moi, j'ai toujours connu que des chevaux, une bonne jument ou deux, ouais. Et puis des bricots.
Ah oui, d'accord.
Des bons bricots, des bricots de grosse taille. Hein.
Ouais.
Des fois, vous avez des petits bricots, ils ne sont pas tellement gros. Mais c'était des bricots qui pouvaient traîner une voiture. Hein.
Ah, d'accord. C'est donc le moulin de la Brouelle.
Oui, ici on est dans l'ancien moulin de la Brouelle, l'emplacement du moulin de la Brouelle. Malheureusement, on ne peut rien voir de positif, on ne peut pas avoir quelque chose de ce qu'on a vu dans le temps, même puis les pierres, puisque c'est pris par les ronces partout. Mais moi je suis venu dans cet endroit, dans ce moulin qui tournait très bien, en 1916.
Oh.
Oui. Et on venait faire moudre. Zemoud, comme au moulin des Vernes, comme au moulin de Mihage, pareil. Et on venait là pour une partie de la journée avec plusieurs sacs avec le ministre, avec le bourricot. Et on restait là toute la journée pour attendre que notre blé, tout ça, soit moulu le soir. Et on repartait.
Puis quand vous veniez là pour faire moudre, pendant que le grain se moudait, qu'est-ce que vous faisiez ?
On se promenait, on allait à la queue de l'étang, on se promenait partout par là, tous les jours de la journée. On mangeait avec les meuniers.
Ouais.
Oh, ben, le midi. On va passer notre table à côté de nous, il y avait des fois un bon ragoût, un bout de salé, quelque chose. Oh, il y avait toujours à manger dans les moulins.
Ouais.
Oh, puis de la volaille et tout. Puis généralement, il faisait casser la côte à tout le monde. Oh tiens, tu vas manger un œuf sur le plat, mon gamin, oh, n'importe, il y avait toujours quelque chose, une gâterie. Hein.
Ouais. Puis alors, qui est-ce qui restait là-dedans ?
Ah ben c'était, on les appelait, je ne me rappelle plus du nom de leur nom de famille. C'était le père Jean Blanc avec la Marie, sa femme s'appelait Marie. Oui. Et il me semble, Marie, oui. Et lui, on l'appelle Pierre Jean Blanc. Mais alors, ce qu'il y avait de très bien, de rigolo, c'était un homme, un petit bonhomme, et puis qui n'était pas pressé, et puis qui aimait bien voir le canon. Il aimait le canon. Alors, quand il partait avec son grand cheval blanc, il avait un grand cheval blanc, il empruntait certainement ce chemin-là qui tombait là-bas sur la route à côté de la route de Maisoncomte, là, qui monte à Maisoncomte. Et il arrive à Chaumard. Et puis quand il arrivait là, ben, sa tournée était quasiment finie. Il attachait le cheval, son grand cheval, il attachait à l'anneau derrière les bruyandelles, on les appelait les bonhommes. Il attachait son grand cheval là. Puis des fois, il était 2, 3, 4 heures. Des fois, à la tombée de la nuit, il était encore à Chaumard. Alors des fois, il y a des gars qui prenaient un journal, et puis ils mettaient le journal devant la tête du cheval.
Ah bon ?
Oui, pour faire voir que le cheval s'ennuyait, puis qu'il lisait le journal. Alors vous parlez d'une partie des gens blancs quand ils sortaient chez les bonhommes. Oh, sacré ! Chameau, on fait une vache, on va s'appuyer. Et puis c'était la rigolade sur la place. Il repartait avec sa grande carriole bâchée, avec des arcelots, des cerceaux qui cueillaient dans les bois, comme ça c'était des pipiers de chêne. C'était une voiture à deux roues. Et puis alors il y avait des morceaux de fer, des godets de chaque côté, qui mettaient des arcelets comme ça.
D'accord.
Et puis ils avaient une bâche. Et puis la voiture était bâchée. Et puis ils étaient là-dedans, assis sur leur sac. Puis elle a eu. Vous voyez, des fois, ils rentraient très tard, puis certainement qu'ils ne devaient pas être à jeun.
Puis ils ont eu des enfants, ces gens-là.
Ah, ben oui, mais enfin, pour vous dire vraiment la définition de la famille, là, je m'appelle bien du père Jean Blanc, je m'appelle de sa femme, je m'appelle de la Marie, une fille qui avait perdu un petit peu la tête.
Et alors, après eux, c'est tombé.
Ah, ben après, non, il y a une fille. Ben non, il y avait une fille. à une fille, oui, alors, donc, oui, ça me remet sur la piste, qui était mariée avec un gars de la Somme.
Ah.
Oui, alors ce gars de la Somme, il avait voulu, c'est lui d'ailleurs qui avait fait faire la route, là, parce que comme on descendait par le petit chemin qui était très difficile, ou par là, il avait fait faire ce bout de route pour avoir accès avec sa voiture, et puis c'était plus facile. Et ce gars-là était de la Somme. Et il a fait moudre pendant longtemps. Il faisait moudre les blés noirs, la farine de blé noir.
Mais ils restaient là, ils habitaient
oui,
là.
Bah, oui, ils étaient là, dans le moulin, comme le père Jean Blanc.
Ah, ouais,
et puis, d'un coup, il y en a qui a dû mourir, je crois, l'un ou l'autre. Et puis là, ça a été la fin.
Ah ouais, il n'y a pas eu d'héritier, rien du tout.
Ah, ça, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Sachez pas. Non. Alors, vous voyez, non, mais c'est ça, on ne voit pas la maison, mais pour vous faire voir l'emplacement d'un moulin, dans le trou, ça pouvait être. Hein.
Ouais.
Dans les bois, la cache et tout, ils ne voyaient jamais personne de. Oh. Autrement, c'était les bois où les gens qui venaient faner. Peut-être que ces prêts-là, c'était à eux.
Oh.
Alors, enregistrement chez Madame Jeanne Auribeau à Plancher en Morvan, le 21 août 84. Enregistrement à propos du moulin de la Brouelle.
Alors, Madame Auribeau, là, donc, vous êtes plus ou moins originaire par votre famille du moulin de la Brouelle. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur ce moulin ?